extraordinaire du co-président des Verts, Robert Habeck, le résume. Les trois partis qui se retrouvent aujourd'hui pour des discussions préliminaires pour tenter de former une coalition ensemble ont du pain sur la planche. Avant de manger le biscuit, il faut se mettre d'accord sur la recette. Entre les sociaux-démocrates et les écologistes, les points communs sont importants, à commencer par la politique économique et sociale et les finances publiques. Cela sera plus compliqué avec les libéraux. Le FDP rejette toute hausse d'impôts pour les plus riches, contrairement à ses partenaires potentiels. Les libéraux tiennent à la discipline budgétaire en Allemagne, en Europe, des critères de Maastricht plus flexibles ou des dettes communes constituent un chiffon rouge pour le parti. Verts et sociaux-démocrates veulent un SMIC horaire à 12 euros et une sécurité sociale où tout le monde cotiserait.
Radio G, 101.5 FM.
Bonjour Daphné, comment tu vas ?
Bonjour Flora, ça va très bien. Et toi ?
Très bien, très heureuse de vous retrouver pour notre deuxième émission de Tout compte fait, qui continue à vous faire découvrir tout au long de la saison des contes pour les petits et grands. Au programme du jour, comme promis, nous partons en balade en Écosse. C'est quoi pour toi l'Écosse ?
Alors pour moi, l'Écosse, c'est les grandes collines, les embruns, un peu de brouillard, des créatures fantastiques, la lande, et puis des guerriers aussi. Ouais, c'est ça pour moi, l'Écosse.
C'est chouette.
Ouais.
Bon, on a trouvé du bon son.
Je crois que pour vous faire une bonne découverte de l'Écosse, je pense que on a trouvé des petits morceaux de musique bien sympathiques. Ouais.
Tu vas nous raconter quoi ?
Aujourd'hui, je vais vous raconter La femme du pêcheur et la reine des elfes. Et toi, Flora ?
Moi, je vais vous raconter Jack et la sorcière de la mer.
Ah, je la connais pas cette histoire. J'ai hâte de découvrir.
On y va ?
On y va !
Tout compte fait.
Thank you.
pêcheur et l'enfant de la reine des elfes. Un jour d'hiver, la jeune femme d'un pêcheur se pencha au-dessus du berceau de son enfant. Dehors, le vent soufflait, la mer grondait, les vagues se brisaient sur les rochers et la jeune femme pleurait à chaudes larmes. « Mon petit garçon, mon soleil, comment allons-nous vivre? Qu'allons-nous devenir alors que la mer nous a pris ton père, notre soutien de famille ?» Là-dessus, elle sursauta car elle venait d'entendre à la porte un faible bruit. « Qui va là? Qui frappe ?» fit-elle effrayée. Elle entr'ouvrit la porte et à la lumière du foyer, elle aperçut une toute petite femme, blanche comme une statue et portant un enfant dans ses bras. L'inconnu entra dans la chaumière. « Aide-moi, brave femme, aide-moi! Je suis malade et je ne suis plus capable de garder seule mon enfant en vie. » La femme du pêcheur ne prit pas le temps de la réflexion. Elle saisit dans ses propres bras le minuscule bébé, tout faible, habillé de soie verte, et le nourrit comme s'il s'agissait du sien. Puis elle le déposa dans le berceau, à côté de son fils, ranima le feu, versa ce qui lui restait de farine dans le chaudron, y ajouta un morceau de poisson, des légumes, et en un rien de temps, elle eut cuisiné une appétissante soupe de poisson. Ensuite, elle prépara un lit pour la dame, et un moment plus tard, tout le monde s'endormit dans la chaumière. Au matin, des pleurs d'enfants réveillèrent la femme du pêcheur. Elle jeta un coup d'œil au lit voisin et frissonna d'effroi. Il n'y avait plus trace de la visiteuse. Si elle n'avait entendu pleurer le petit bébé, elle aurait pu penser qu'elle avait rêvé. En soupirant, elle saisit les deux enfants et les nourrit comme s'il se fût agi de jumeaux. Quand ils furent rassasiés, elle examina la chaumière et ne put en croire ses yeux. Sur la table se trouvait un plat rempli de farine blanche, un pain bien doré, du beurre frais et du miel si bon que la pauvre femme n'en avait jamais goûté de pareil. Sous la voûte de la cheminée était suspendu un gigot fumé dont la bonne odeur se répandait dans toute la maison, faisant monter l'eau à la bouche de la jeune femme. Cette dernière posa à présent son regard sur le banc et vit que des vêtements neufs y étaient posés, des vêtements de petits garçons et des vêtements de petites filles, tout en soie et en laine brodée, légère comme du papier. « Ce ne peut être que le fait de la reine des elfes, » se dit la femme du pêcheur. Et à partir de ce moment-là, on ne connut plus la misère dans la chaumière. Les enfants, bien nourris, poussaient comme de jeunes plantes. La petite fille avait le visage blanc et rose et ses yeux verts brillaient comme l'eau d'un lac. Un soir, alors que l'été approchait et que la femme du pêcheur tentait d'endormir les enfants en chantant une chanson, retentit à la porte un faible bruit. La femme se leva, entr'ouvrit la porte et se trouva à nouveau en face d'une toute petite femme en habit de soie verte. La visiteuse lui sourit, et ses yeux verts brillèrent comme des étoiles dans la nuit. « Je suis venue te remercier de nous avoir sauvé ma fille et moi, et de nous avoir rendu la vie. À présent, je viens reprendre mon enfant. Mais je te demande instamment de venir avec moi, ainsi que ton fils. Ne crains rien. » « Vous serez de retour demain. » Cette fois non plus, la femme du pêcheur ne prit pas le temps de la réflexion. Elle enfila un vêtement, enveloppa son fils dans un lange et suivit la dame vers la montagne. Elles traversèrent une sombre forêt et finirent par s'arrêter devant un buisson. À l'intérieur du fourré apparut soudain une sorte de passage. Celui-ci s'écarta devant elle et une porte de fer s'ouvrit. Elles la franchirent, et le buisson se referma derrière elles. L'herbe piétinée se releva, comme si personne n'était jamais passé par là. la reine des elfes, guida la femme du pêcheur à travers une campagne luxuriante. Il y poussait des arbres aux fruits si sucrés que des gouttes de miel en coulaient. Les blés mûrissaient dans les champs plus haut qu'un homme de taille normale et laissaient pencher leurs épis longs comme des têtes de chevaux. Du château royal s'élevait une musique tantôt allègre, tantôt gaie, tantôt mélancolique, sur laquelle les elfes dansaient leur danse immémoriale. La femme du pêcheur ne savait plus devant quoi s'émerveiller. Les tapis et les rideaux étaient épais comme l'écume de la mer. Les ornements des pièces venaient de tous les coins du monde et étaient somptueux. La reine la guida vers la table principale et lui offrit des mets et des boissons comme elle n'en avait jamais goûté et comme il en existait sans doute pas à la table même du roi. Pendant ce temps, les enfants dormaient dans un berceau d'or orné de pierres précieuses et de draps de soie. Et ils faisaient sûrement tous deux de beaux rêves, car ils souriaient d'aise dans leur sommeil. Au matin, la reine des elfes remercia une nouvelle fois la femme du pêcheur. « À présent, nous devons nous séparer, lui dit-elle, mais je n'oublierai jamais ta bonté. Je veux que tu gardes un souvenir de moi. Je pense que le meilleur service que je puisse te rendre... c'est que tu ne puisses jamais voir le fond de tes plats, tant ils seront toujours pleins de bonnes choses. Il faut que vous ne connaissiez jamais plus la faim, ni toi, ni ton fils. De plus, je vais te faire un autre présent. Je vais te préparer un récipient empli de remèdes que les gens ne connaissent pas. Ils ont des propriétés telles qu'ils soigneront les plaies et les os brisés. Mais ni toi ni ton fils n'en auraient jamais besoin. À partir de maintenant, allez et vivez dans la paix et dans le bonheur. » À cet instant, le château royal disparut aux yeux de la femme du pêcheur et l'épais buisson se referma sur elle. Elle se retrouva avec son fils dans la montagne sombre et se dépêcha de rentrer chez elle. La réputation des bienfaits des remèdes, des baumes et des herbes de la femme du pêcheur se répandit comme une traînée de poudre dans les environs. Du matin au soir, et bien souvent du soir au matin, la jeune femme soigna des plaies et des maladies. Elle sauva plus d'un patient de la mort et continuait à avoir toujours assez de remèdes pour les pauvres comme pour les riches, qu'elle nourrissait de surcroît à sa table. Malgré tout ce qui était utilisé chez elle, sa table et ses étagères demeuraient toujours pleines. Ainsi, la femme du pêcheur, son fils et plus tard ses petits-enfants vécurent-ils en bonne santé jusqu'à leur vieillesse. Et tout le long de la côte, on ne connut pas de meilleur médecin que le fils de cette pauvre femme du pêcheur, et l'on n'en connaîtra sans doute jamais.
Tout compte fait, tout compte fait.
Thank you.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Jack est la sorcière de mer. Jack habite avec sa mère dans un village de pêcheurs au bord de la mer en Écosse. Il n'a jamais connu son père, mais c'est un brave garçon qui aide bien sa mère. Et ce qu'il aime faire le plus au monde, quand il a du temps libre, c'est d'aller à la mer, flâner le long des plages, ramasser tous les trésors que la marée haute laisse sur le sable. Vous savez, les bouts de bois trempés par un long voyage, les seaux qui n'ont plus de fond, les cordes entrelacées avec des nœuds étranges, et tous ces galets roulés par la mer, jusqu'à devenir lisses. C'est bon de les tenir dans la main, de sentir la mer froide sur eux. Jack ne s'ennuyait jamais au bord de la mer. S'il marchait suffisamment longtemps, il arrivait à un lac de mer. Oui, la mer entrait par un petit goulet qui grandissait pour former un lac. C'était son endroit préféré. Et c'est là qu'il a vu la sirène pour la première fois. Jack n'avait jamais vu une si jolie sirène. On aurait dit que le soleil éclaboussait ses cheveux. Ses yeux étaient aussi changeants que la mer, bleu, gris, vert. Mais ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était sa queue de poisson. Elle scintillait comme de l'argent. La sirène ne faisait jamais attention à lui. Elle plongeait, barbotait dans l'eau, entourait ses épaules d'algues, sortait son miroir pour s'admirer ou peignait ses cheveux dorés. Un jour, Jack a décidé de se marier avec elle. Quand il lui fit part de son idée à sa mère, elle était horrifiée. Déjà que ses notes à l'école ne sont pas brillantes, et maintenant il veut épouser une sirène. « Maman, tu sais comment attraper une sirène ?»« Mon fils, n'y pense plus, c'est dangereux. » Devant le refus de sa mère, Jack va voir sa vieille tante. Elle habitait à la lisière du village, et c'est une femme aux poules. Oh, cela ne veut pas dire qu'elle garde des poules, non. Quoique, elle pourrait, des oies aussi. Mais non, on appelle femme aux poules une personne capable de répondre à une question avant même que vous l'ayez posée. Jack a à peine poussé la porte de sa maison qu'elle s'exclame. Ah non, Jack, attraper une sirène, c'est trop dangereux. Oh, je sais que certains hommes, d'après ce qu'on raconte, ont réussi en cachant la peau de la queue de poisson pendant longtemps. On dit même qu'ils ont eu des enfants. Mais toujours le malheur est venu. Alors non, Jack, rentre chez toi et n'y pense plus. Avez-vous déjà aimé si fort que rien ne peut vous empêcher d'arriver au bout de vos rêves ? Jack voulait sa sirène. Sa tante a soupiré. Eh bien, on ne peut pas mettre une tête sage sur des épaules jeunes. D'accord, Jack, je te dirai ce que tu désires savoir. Il faut que tu attrapes ta sirène avec un filet magique. Pour cela, tu dois voir Rory, le vieux fabricant de filets. Rory ? Le vieux fabricant de filets ? Pour sûr que Jack avait entendu parler de lui. Il n'habitait pas dans une maison comme tout le monde. Il vivait dans une grotte près des falaises. Jack n'allait jamais là-bas. On disait que Rory travaillait pour le diable. En plus, il était aveugle. Un samedi, Jack, tremblant de tous ses membres, y est allé quand même. La grotte était énorme et tellement noire. Ça sentait le moisi, le renfermé, ça sentait mauvais. Jack venait de mettre un pied dans la grotte quand une voix a résonné autour de lui. « Jeune homme, que fais-tu ici ?» C'était Rory, encore plus terrifiant vu de près avec sa longue barbe blanche et ses cheveux hirsutes et ses yeux glauques d'aveugle. « Je cherche un filet pour attraper une sirène !»« Une sirène, jeune homme ?» N'y pense plus. Rentre chez toi et oublie la sirène. C'est dangereux. C'est dangereux. Ah, ça non alors. Pourquoi est-ce que tout le monde répète la même chose ? S'il vous plaît, donnez-moi un filet magique. Je veux l'attraper. Le vieillard lui tend un minuscule filet et grommelle. Alors prends ceci, mais ne remets plus jamais les pieds ici. Tu m'entends ? Jack court sans s'arrêter jusqu'au lac de mer. Il a tout prévu. Il va poser le filet sur le goulet d'entrée une fois qu'il sera sûr que la sirène est dans le lac. Elle y était déjà, comme si elle l'attendait. Toujours aussi belle. Jack pose le filet, qui aussitôt grandit jusqu'à remplir tout le goulet. Jack s'assoit au bord du lac. Il n'a qu'à attendre qu'elle quitte le lac maintenant. À ce moment-là, descend un brouillard, un de ces brouillards écossais, qui transforme l'air en une soupe grise et épaisse et dans lequel on ne peut même plus voir ses propres mains. « Ça ne fait rien, » pense Jack. « De toute façon, je l'entendrai tomber dans le filet. » Le temps passe lentement, lentement, quand on attend un événement important. Après ce qui lui semble être l'éternité elle-même, Jack entend soudain « Splash, 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 oh, elle est dans le filet, elle est là !» s'écrie Jack. Il ramasse les cordes du filet, le sort de l'eau, le jette sur ses épaules. « Oh, elle est plus lourde qu'il ne s'y attendait. » Et il rentre à la maison, où il trouve sa mère et sa tante en train de parler. « je l'ai, regarde maman, regarde ma tante. Vous allez voir comme elle est belle. » Et Jack pose doucement le filet par terre et défait les lacets. « Sort du filet. Oh, pas une sirène, non ?» Mais une vieille femme toute tordue, ses cheveux ondulent autour de sa tête comme des serpents. Son visage est tout ridé, ses dents toutes noires, ses yeux méchants et ses doigts si crochus avec des ongles si longs qu'on dirait des griffes. Le pire, c'est qu'elle a une queue de poisson. Oui, mais alors, d'une puanteur. Ce n'est pas elle, ma sirène, dit Jack horrifié. Non. « Je ne suis pas une sirène, je suis une sorcière de mer et maintenant tu es mon esclave. Je vais tout de suite te ramener à la mer. Tu ne pourras pas, ici je suis et ici je resterai. Va me chercher du poisson à manger. » La mère de Jack, voyant sa maison envahie par un tel visiteur, décide d'aller habiter chez sa sœur pendant quelque temps. Et Jack doit aussitôt retourner à la mer pêcher des poissons pour satisfaire la sorcière. Pauvre Jack, maintenant il doit courir du matin au soir à porter des seaux d'eau de mer pour remplir la baignoire. C'est là qu'elle dort. Il doit pêcher 5 ou 6 fois par jour pour lui donner un nombre de poissons suffisant. Elle exige même qu'il lui gratte le dos. Au bout de 3 semaines, Jack est épuisé. Profitant de ce que la sorcière fait sa sieste au début de l'après-midi, il court chez sa tante. « Hé, Jack, dit-elle, écoute-moi bien. Pour te débarrasser de la sorcière, il faut que tu lui coupes les cheveux et ensuite noue-les autour de sa taille. Alors, elle perdra toute sa force et tu pourras la rejeter dans la mer. » La sorcière est déjà réveillée quand Jack rentre tout essoufflé. « Où étais-tu ? » Elle lui griffe le visage. « J'ai faim ! Donne-moi à manger !» Heureusement, Jack avait déjà un seau de poisson préparé, et pendant qu'elle mange goulûment, Jack prend les ciseaux de sa mère et saisit brusquement les cheveux qui ondulent toujours comme des serpents autour de sa tête. Elle hurle, la sorcière, elle se débat, elle se tord sous ses doigts, mais Jack coupe, 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 tient bien les cheveux, ils sont coupés. Il les noue autour de la taille de la sorcière, et la voilà gisant sans force par terre. Jack l'attrape, la jette dans le filet, soulève le filet sur ses épaules et retourne à la mer. Il lance le filet aussi loin qu'il peut. La sorcière disparaît au fond de l'eau et Jack, soulagé, va rentrer chez lui quand un mouvement le fait regarder vers le lac de mer. La sirène ! Cheveux de soleil, yeux de mer et sa queue scintillante comme de l'argent. Jack ! Jack ! Tu es un homme de la terre, je suis une fille de la mer. Jamais nous ne pourrions nous marier. Garde-moi seulement dans ton cœur comme un rêve d'enfance et trouve une vraie jeune fille pour partager sa vie avec toi. La sirène plonge sous les vagues et disparaît comme une brume matinale. Alors Jack rentre à la maison où il trouve sa mère en train de préparer le thé du soir. Deuxième émission de Tout Compte Fait vous a plu. On vous donne rendez-vous le jeudi 21 octobre sur Radio G pour une nouvelle émission. Daphné et moi, nous vous emmènerons dans les pays chauds. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site radio-g.